Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court, dernière émission de la semaine. Tous les soirs, une conversation d'une heure avec un artiste, ce soir, Marin Fouquet.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux et Marin Fouquet.
Dingue comme le bruit d'une bagnole peut ramener au réel, et dingue comme les souvenirs peuvent défiler, encore plus vite que la vie. Le passé, il s'enchaîne bien mieux que le présent, j'ai remarqué. C'est l'abri qui fait ça. Encore mieux que la méditation de la parisienne dans son jardin, ou bien la psy qu'on m'avait emmené voir. L'abri dont parle votre narrateur dans cet extrait de votre premier roman, Marin Fouquet, c'est un abri bus, et il abrite un monologue intérieur rythmé par la couleur et le son de voitures qui passent. Il est seul, mais il est peuplé. La fumée de son joint, la puissance de son verbe et de son imagination font revivre les corps et les voix de la fille de novembre, d'Enzo, du grand Kevin et des autres. Le rythme de la prose s'accélère jusqu'à se fondre avec de la musique qui libère le corps, voir l'esprit. Bonsoir, Marin Fouquet.
Bonsoir.
Soyez les bienvenus. 77 paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Actes Sud. Et pas très longtemps après que ça a commencé, on y lit cela.
Le silence du 77. Oui, trois à la suite. Métallisé. Comme ça. Aussi lentement. Ce matin. Juste avant que le car ne passe. C'est rare. Rare qu'on voit. Comme si ça ralentissait exprès en passant devant l'abri. Comme si ça voulait marquer le coup. On l'a tous remarqué. On se l'est pas dit, parce qu'on ne se dit jamais rien, mais on l'a tous remarqué. Ça se voyait à nos tronches, qu'on s'y attendait pas. Drôle de convoi. Surtout à cette heure-ci. Le soleil presque pas debout. Le brouillard qui mange encore la terre, le vent se lèvera bientôt. Alors on a fait de drôles de tronches, et puis on s'est tu. Renfoncer sa gueule dans l'abri. Drôle de convoi, n'empêche, pour un matin dans le 77. C'est rare d'en voir trois à la suite, de métalliser, qui passent si lentement, avant même que le car n'arrive, s'arrêtent, se remplissent, repartent au loin sur la bande de bitume. Le vrombissement du moteur et les doigts d'honneur par la grande vitre arrière, rectangle qui reflète et s'enfonce dans le 77. 77, c'est le département. Ça se revendique. C'est quelque chose. Plus grand que le 93 même, le 77. On ne dit pas 77, on dit 77. Comme une salve qui briserait le silence. C'est important ici, le silence. Il est partout. Le ronronnement de la nationale au loin, le chant du tracteur, parfois, les pylônes électriques comme des cigales, toujours, et ça et là, des aboiements de chiens. C'est un silence spécial, le silence du Sud 77. On dit Sud 77 parce qu'ici, c'est pas Paris. Tu peux partir en vacances dans le monde entier, à Rouen par exemple, si tu dis que tu viens du 77, tu verras, ils te diront Paris. Du coup, on dit Sud 77. Ça sonne plus exotique. Plus ailleurs. Ça sent presque la mer. On sait bien qu'on est du 77, mais ça marque la différence. Parce qu'ici, c'est pas Paris. Pas encore. Pas comme le Nord 77. Ici, tant que le bitume n'aura pas tout recouvert, des vagues de bitume qui enroulent l'horizon, ça restera chez nous. Et chez nous, c'est vert, c'est gris et c'est marron. Surtout marron. Vu d'en haut, quadrillage marron. Il n'y a que le silo rond, la centrale électrique carrée, les pylônes triangles et les bagnoles rectangles qui sont métallisées. Et ce matin, métallisées, métallisées, métallisées.
Marin Fouquet, Romain de Becdelièvre lit un extrait de votre texte 77 et on entend tout de suite des couleurs, on entend des formes, on entend des rythmes, on entend ce chiffre 77 qui donne le titre à votre premier roman. Est-ce que c'est un chiffre qui s'est imposé tout de suite comme étant presque une rythmique, un battement de cœur, un point de départ à l'écriture?
Ben ouais, 77, 77, ça claque. Et ça claque à l'oreille, et c'est dans cette revendication, on peut trouver dans le 77 beaucoup de tags 77 mitraillette, et ça vient surtout de là, 77 mitraillette. Et cette sonorité m'intéressait, et pour tout ce qu'elle a d'une voix en fait qui se crée d'un seul coup par les sons, et de aussi cette espèce de rapport qu'il y a le 77, le 93. Si on dit 77, c'est parce qu'il y a le 93, que le 93 a une identité et le 77, dans l'idée, n'en a pas. Et c'était ça mon point de départ, parler d'un lieu qui n'a pas d'identité.
En tout cas, l'identité, elle commence à en avoir dès les premières pages de votre roman et elle commence presque par le silence. C'est un silence qui est rompu et c'est la rupture de ce silence qui donne presque naissance au flot de conscience porté par votre narrateur. La manière dont il est rompu ce silence, c'est le passage comme ça de trois voitures métallisées. C'est un convoi rare. Vous le décririez comment, ce silence-là?
C'est un silence lourd, pesant. C'est un silence qui permet la réflexion, qui permet de se perdre dans sa tête, dans ses pensées. Et c'est aussi le silence des non-dits qu'il y a dans ces communautés qu'on appelle rurales, où tout le monde se connaît, tout le monde sait qui il est, qui elle est. On croise un tel dans la voiture, on sait que c'est le fils d'un tel et qu'un tel et tout ça. Et en même temps, c'est un territoire qui est en permanente mutation, qui devient de plus en plus des territoires dortoirs pour Paris. Et donc, on est dans un entre-deux. On est entre le silence des non-dits, des choses qu'on sait tous et toutes les uns sur les autres, les unes sur les autres. Et c'est aussi ce non-dit de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et cette vague de bitume qu'est Paris et de tous ses habitants qui vont peut-être tout recouvrir. Et aussi le silence.
Après, vous dites c'est un endroit qui, en comparaison, n'a pas d'identité, en comparaison, par exemple, avec le 93 et la Seine-Saint-Denis. Mais finalement, dans ce paragraphe que vient de lire Romain de Becdelièvre, il est aussi question de la comparaison avec la grande ville, ou même avec Melun, ou même avec Rouen. D'une certaine manière, c'est comme si elle se faisait toujours par la négative, cette identité. On n'est pas Paris, on n'est pas encore Paris, on n'est pas de cet endroit-là. Est-ce qu'il a fallu pour vous, ou est-ce que c'était un enjeu, que finalement cet endroit-là qui lui donne ce titre ait une identité forte finalement?
C'est arrivé au fur et à mesure de l'écriture. Au début, en fait, je me suis posé la question de qui je suis pour écrire, quelle est ma légitimité. Quand on regarde un petit peu la rentrée littéraire et même en règle générale les personnes qui sont mises en avant, qui écrivent, c'est très souvent des hommes blancs, hétéros, cisgenres. Je rajouterais patriarches.
On reçoit quelques femmes à ce micro, rassurez-vous.
Ouais, trop bien, trop bien. Mais oui, non, je sais bien, mais ce qui est quand même mis en avant, c'est beaucoup ça, ce qu'on voit dans ce qui est médiatisé de manière mainstream. Et quand on regarde les sujets des romans, il y a de tout. Ça va parler de migrants, de personnes qui vivent à l'autre bout du monde, de personnes qui se prostituent. Et il y a une espèce d'universalisme comme ça de l'auteur, j'ai l'impression, qui se dit je peux parler de tout. Et moi, je me suis posé la question de ok, de quoi en fait je suis légitime à parler. Et ce qui m'a paru une évidence, c'était le 77, le 77. Et là où j'étais mal barré, c'est que le 77, c'est d'où je viens, et c'est aussi le territoire, un des territoires. Il y en a plusieurs comme ça, mais qui sont rien du tout, quoi. C'est ni la ville, ni la campagne, c'est le bitume et la boue, c'est un entre-deux permanent, et c'est rien. Et je me suis dit, je suis légitime de ce rien, alors allons-y. Et au début, je pensais écrire un roman sur l'ennui, puis au fur et à mesure, il s'est passé des choses, et je me suis rendu compte que cette négation, c'était déjà une identité.
Comme ce marron. Le marron, on dit toujours que c'est l'espèce de couleur à laquelle on arrive quand on a tout mélangé, mais au final, ça en devient une de couleur à part entière. Vous l'avez vu apparaître, vous avez été surpris d'une certaine manière de la manière dont le territoire il a repris d'autres couleurs sous votre plume.
Oui, ça a été ma grande surprise de l'écriture d'un roman, vu que c'est mon premier. C'est tout ce qui se passe dans le roman, là où le roman nous emmène, qu'on n'avait pas prévu. Je viens plutôt de l'écriture de formes courtes, de poésie sonore, où on sait quand même un petit peu, on part d'un point A, on va à un point W, puis parfois on se surprend à arriver à Z, mais on le sait, de A à W, on sait où on va. Et là, je pensais savoir où j'allais, puis le roman m'a tracté ailleurs. Et il y a une image qui, quand je pensais à la terre du 7-7, qui me marquait beaucoup, c'est une image qui a beaucoup dans la poésie pré-islamique, qui est une image où très souvent il parle de la poussière des morts. Les morts, on les met en terre, et ensuite cette terre sert à faire les pots dans lesquels on va contenir le vin. Et donc cette espèce de cheminement, et il y a un rapport entre la terre que ce narrateur a en face des yeux et le shit qu'il effrite dans sa paume. Et à un moment donné, les deux se perdent l'un dans l'autre.
Comme se perdent finalement nous, en tout cas, comme il y a un truc qui circule, à savoir est-ce qu'on est dans l'abribus, est-ce qu'on est dans la fumée et la solitude, ou au contraire, est-ce qu'on est dans toutes les aventures qui nous sont narrées, dans la fête foraine avec la fille de novembre, est-ce qu'on est en bande, finalement, est-ce que cette solitude, elle existe vraiment? Il y a ça qui se passe, Marin Fouquet. C'est qu'en fait, il est seul, mais il est jamais seul, ce narrateur.
Ouais. Ouais, déjà il est jamais seul parce qu'il est dans l'ennui, et donc dans l'ennui il se passe beaucoup de choses. On est seul. Si on est seul dans l'ennui, on est seul avec soi-même, mais soi-même devient un autre avec qui faire le meilleur et parfois le pire.
On est deux, quoi.
On est deux déjà à la base.
Minimum.
Ouais. Et puis ensuite justement dans son flux de conscience, ouais, il va convoquer au fur et à mesure des personnages qui vont peupler au fur et à mesure le 7-7. Il est assis sur son banc, sous sa capuche, sous l'abribus.
Il est bien protégé.
Ouais, il a full armure entre ses deux abris déjà. Puis il a cette espèce de camisole qui est le shit. Donc là, il est protégé du monde et de lui-même. Et en même temps, il a donc, quand on est sous un abribus, on a un écran face à soi qui se dessine, qui est l'écran qui est dessiné par les parois. Et dans cet écran, il y a le paysage mouvant. Et au fur et à mesure, il y a les vers de terre qui vont arriver. Puis il y a aussi ces personnages-là, ouais.
On a des expressions toutes simples, toutes faites. On parle de vie intérieure. Bon, monologue intérieur, c'est la forme que notre siècle le siècle dernier a inventé pour essayer de représenter ces états de conscience. Mais on ne sait pas du tout de quoi c'est fait. La plupart du temps, le monologue intérieur, ce n'est qu'une verbalisation après coup, de cette chose très énigmatique. C'est quand on rêve, quand on rêvasse, quand on pense, est-ce qu'il y a même une parole? Est-ce que cette activité cérébrale ou sensible qui nous investit, de quoi est-elle faite? Comment en rendre compte autrement qu'on a pu le faire par ce qui s'est appelé le monologue intérieur, qui est le plus souvent une verbalisation de choses qui ne sont pas verbalisées ou verbalisables.
Comment dire l'invisible et l'indicible d'une tête qui pense, Marin Fouquet, ici on entend Jean-Paul Gou au micro de Alain Weinstein dans Du jour au lendemain, en 2003. Si on devait définir la forme de votre roman, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est ce qu'on appelle un flux de conscience en littérature ou un monologue intérieur. Est-ce que c'est une forme qui vous est arrivée tout de suite? Vous disiez finalement, moi la première question que je me suis posée c'est est-ce que je suis légitime à écrire? Ok, je vais parler de cet endroit-là, de ce rien qu'est d'abord le 77, mais ensuite vient comment? Quelle forme? Elle est arrivée comment?
Je voulais une voix. Je voulais que ça soit une voix qui s'élève, qui se construise. Et au fur et à mesure que je décrivais le 77, je me rendais compte qu'il fallait que cette voix elle soit de plus en plus grande, pour pouvoir être entendue, pour qu'elle ne se fasse pas écraser par le paysage. Et c'est comme ça, en fait, qu'il s'est construit. Et je crois qu'avant tout, c'est un monologue intérieur, mais c'est aussi une histoire de corps. c'est un corps qui est avachi. Et tout l'enjeu, ça va être de savoir est-ce qu'il va se lever, est-ce que ce corps va se lever et qu'est-ce qu'il va faire en se levant. Est-ce qu'il va se lever pour exploser à la face du monde? Est-ce qu'il va se lever pour s'effondrer dans le fossé? Ou est-ce qu'il va trouver une troisième voie, une troisième possibilité? Et ouais, avant tout, je voulais vraiment trouver une voie. Et il y a aussi, pour moi, c'est vachement intéressant ce qui était dit par rapport au flux de conscience. J'adorerais, et je pense qu'il y a peut-être plein de personnes pareilles, je sais pas, mais j'adorerais entendre les flux de conscience de chacun et chacune. Parfois, j'ai la sensation que...
Vous devriez vous protéger de cela, je pense.
Non, je pense qu'on pourrait se rassurer, on se rendrait compte justement qu'on n'est pas si fou, qu'on n'a pas tant un esprit malade. Et donc, il est en spirale, ce monologue intérieur. C'est une permanente spirale. Et j'avais besoin aussi, moi, de sortir de cette spirale-là, en l'écrivant. Et voilà.
Et elle a été facile à trouver, cette voie-là? Parce que vous disiez, j'avais une pratique d'écriture, d'autres formes d'écriture, mais néanmoins, qui dit pratique d'écriture, que ce soit poésie, forme courte ou ce que vous voulez, il y a déjà la voie qui est là. Est-ce qu'il fallait en trouver une nouvelle?
Oui, absolument. Il ne fallait surtout pas que ça soit Marin Fouquet sur scène qui déclame ses textes, surtout qu'à ce moment-là, juste avant d'écrire ce roman, je faisais des singeries sur scène où je me mettais... torse nu de manière ultra viriliste, où j'étais persuadé de dénoncer la virilité en surjouant la virilité, mais tout ce que je faisais c'était reproduire de la virilité, reproduire et encore reproduire, de manière insupportable en fait, donc fallait absolument sortir de ça. Et j'ai essayé de trouver une voix qui était plus adolescente et une réelle oralité. J'ai la sensation, quand je lis ou que je survole des textes de littérature contemporaine qui se servent de l'oralité, j'ai l'impression d'une oralité feinte. Il y a un truc un peu, on va mettre des mots qui vont se répéter. Alors, si je veux que mon personnage soit de banlieue, je vais lui faire dire wesh à plusieurs reprises, puis ça va faire banlieue. Si j'ai envie que ça soit quelqu'un un peu rustique, je vais mettre des je sais pas moi, et le gars il dit, je vais répéter les pronoms et compagnie. Et j'avais envie d'une vraie oralité, pas une oralité feinte, c'est-à-dire une oralité qui se réinvente en permanence, comme les oralités, où on crée des nouveaux rythmes, on crée des nouvelles sonorités, des nouveaux mots, et qui soient propres au narrateur, comme chaque oralité est propre à chacun. Alors que très souvent, j'ai l'impression qu'ils veulent brosser une espèce d'oralité figée, d'oralité morte, de taxidermie un petit peu.
Et ça veut dire que vous vous êtes mis à votre propre écoute, vous êtes mis à l'écoute des autres. Elle est passée par quoi, cette trouvaille de voix?
Et c'est beaucoup à l'écoute du 7-7 en fait, beaucoup à en permanence revenir au silence, revenir au bourdonnement des fils électriques, revenir aux aboiements de chiens, revenir à tout ça. Et c'est passé aussi en écoutant beaucoup ce que j'écrivais, c'est-à-dire de lire et puis de décrire et de lire soit à haute voix, soit dans ma tête et voir est-ce que ça sonne, est-ce que ça résonne, est-ce que les phrases marchent bien dans la bouche.
Ce monologue intérieur, il est rythmé par des couleurs qui sont, on imagine, la couleur des voitures qui passent devant cet abribus. Mais finalement, on peut considérer que ça peut appeler autre chose. C'est juste une scansion de couleurs. Ça peut être aussi juste la couleur des flashs mémoriels, des réminiscences sensorielles, la manière dont les choses et les gens reviennent. Ça aussi, ça a été une manière de trouver la voie. C'est-à-dire, cette voie-là, elle serait augmentée de la mémoire, elle serait augmentée de la réminiscence de votre narration.
Oui, et en plus, je voulais vraiment penser l'objet livre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un livre? Qu'est-ce que c'est des chapitres? Et donc, du coup, comment est-ce que je vais faire des chapitres sans faire des chapitres? Comment est-ce que je place la respiration autrement? Comment est-ce que j'en fais une vraie expérience? Parce qu'un livre, ça a un certain coût, mine de rien. Et donc, comment est-ce que j'en fais plus qu'un truc qu'on pourrait lire sur Internet? Et donc, pour moi, il y avait une urgence là-dedans, créer une expérience, vraiment une expérience de lecture dans laquelle on se perd et dans laquelle on perd tous ses repères, de la même manière que lui, au fur et à mesure de la journée, il s'abrutit de joie. Comment est-ce que je fais perdre un petit peu la notion du temps, la notion du rythme, la notion de tout, en fait.
Du passé, du présent, du futur, de la géographie, de l'heure qu'il est.
Ouais.
Vous aviez quoi comme relation avec l'objet livre avant d'écrire ce premier texte ?
D'abord, mon premier coup de foudre littéraire, c'était enfant, c'était Harry Potter. Donc j'avais un rapport assez... ça donne un rapport très dingue au livre, parce que d'un seul coup on les dévore alors qu'on est encore enfant, et puis on nous dit d'éteindre la lumière et on se met à lire sous la couette avec la lampe de poche, et donc il y a une forme de l'interdit, on franchit un interdit, mais tant pour quelque chose qui est assez valorisé par les parents, enfin dans mon cas, et donc il y a un truc un peu d'entre deux comme ça. Et ensuite, au collège, je lisais beaucoup de science-fiction. J'allais au CDI pour lire de la science-fiction. Donc, d'un seul coup, on appartient un petit peu plus au geek, au bolos. Un petit peu plus quand même. Mais en même temps, c'est de la science-fiction. Donc, on n'est pas dans un truc... c'est pas comme les profs de français, quoi. Puis ensuite, il y a eu la chanson à texte. Et puis ensuite, le rap.
C'est marrant d'arriver, de partir de l'objet livre pour arriver au rap. Mais c'est un très bon chemin, non, finalement?
Ouais, je crois que tous les chemins sont bons quand ils passent par le rap. Ouais.
Pourquoi ?
Parce que, enfin, je sais pas, tous les chemins sont bons tout court, mais en ce qui me concerne, le rap, ça a peuplé ma tête. Ça a peuplé notamment aussi mon flux de conscience. Le rap, c'est du texte qui s'inscrit dans notre tête, en fait, et qu'on connaît par cœur des textes, et ils nous habitent, ils nous portent, ils nous peuplent.
Et ça augmente aussi, puisque vous parlez de Harry Potter, bon, ça me permet de dire que vous êtes né en 1991, pour les personnes qui n'auraient pas reconnu la jeunesse de votre voix. Ça fait tomber notre réalisatrice. Elle en tombe. ce qui est intéressant, c'est que il y a quelque chose dans Harry Potter qui a trait à la saga, à la répétition, à l'appétit, mais presque comme on va écouter un album en rythme, qu'on est en boucle, qu'on aime tant, comme ça va ouvrir une rêverie, un monde. Bon, alors, je vais parler de choses plus anciennes, mais je me rappelle que pour beaucoup de personnes de ma génération, un tout petit peu plus âgées que vous, l'école du micro d'argent de IAM, ça a été notre Harry Potter, par exemple. C'était notre saga à nous. Est-ce que vous diriez que votre écoute du rap, c'était ce genre d'écoute-là ?
Non, malheureusement, je suis rentré dans le rap de manière très vieux con. C'est un peu comme le dernier arrivé dans un lieu, il veut se faire le plus puriste. Voilà. Donc, donc voilà, moi justement, je suis arrivé dans le rap assez tard, mais pourtant c'était IAM, c'était NTM, c'était Kazé, c'était La Rumeur, voilà, il fallait que ça soit sérieux, ça c'était le rap. Et il y a eu un grand tournant pour moi, ça a été la découverte de Mauvais Œil, de Lunatic. Ou d'un seul coup.
92, plus du tout 7-7.
Carrément, totalement. C'est 9-2, ouais, 9-2.
Trahison totale du territoire.
Et oui, mais ouais, il faut bien se faire traître à un moment donné.
Ouais. Et pourquoi ça a été important ?
Parce que d'un seul coup, j'étais plus d'accord avec ce qu'il disait, mais je me prenais une claque monumentale dans la tête. Et je me suis rendu compte que je pouvais écouter des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, mais qu'il se passait autre chose. Avant, je cherchais des personnes avec qui être d'accord, qui allaient construire ma pensée, construire mon propos, qui allait m'accompagner, alors que là, il se passait autre chose. C'est comme ça qu'ensuite, il y a d'autres rappeurs, et puis, enfin, mon dernier grand choc, ça a été PNL, où d'un seul coup, c'est quelque chose qui, avant, je détestais, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une poésie dingue, incroyable.
Une brise dans la vallée, je descends de la selle. Une bise sur mon âme noire, elle fait la paix. Un poteau, les larmes coulent sur le pare-brise. Les pneus glissent sur mes yeux rouges. Les lions roulent dans la matrice. Gros sourire sur le gars triste. Pas d'adhésion sans cicatrice. C'est la vie pisse. Et le temps baisse. Tempête, elle s'évacue de mon corps et crée la tempête. j'ai songé à fuir à Los Angeles. Suis rongé, cerveau rodé comme un Hells Angels. J'ai tapé dans le paquet de Gonzaga au Etissant. Dernière paire, oh yeah, papa, y'a posé ce feu. Me stresse, cette fille me gêne. Ce regard me gêne, sans cesse cette pute, mais j'aime. J'aime, seul sous la capuche.
Vous êtes sur France Culture, c'est Par les temps qui courent, avec Marie Richeux et Marin Fouquet.
Elle est parfaite cette désannonce, Marin Fouquet, on entendait donc Capuche de PNL. On aurait pu mettre plein de choses de PNL. Ce qui m'intéresse dans la manière, bon, d'une part parce que ça fait partie des gens que vous remerciez fort chaleureusement, pour ne pas dire amoureusement, à la fin de votre roman, mais c'est cette histoire de planance. PNL, ça veut dire plein de choses, ça peut dire par exemple « Peace and Love », paix et amour, et il ne chante pas du tout que la paix et l'amour, mais on a l'impression qu'ils ne le font que dans un nuage de fumée, que toute leur musique, que tout leur rap, que toute leur prod électro n'est agi que par le ralentissement des neurones produits par la fumée du shit. Et c'est aussi l'esthétique, j'ai envie de dire, j'ai pas d'autre mot, dans laquelle vous avez écrit. Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Je ne veux pas faire de plaidoyer pour la drogue.
Ok, d'accord, mais tant mieux, parce que la drogue c'est mal.
Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas dissocier, dans la manière dont ce texte se déroule.
Ouais, c'est drôle parce que, enfin, j'ai écrit ce texte au moment où j'arrêtais de fumer, donc je pense que ce pauvre narrateur a fumé tout ce que j'aurais aimé de fumer, le pauvre. Il y a dans cette perte que permet justement la drogue, dans ce, on parle de rapport récréatif et compagnie, mais dans cette perte, il y a essayer de se trouver soi. Je crois qu'il y a toujours ce truc là, perdre l'accroche au monde pour se trouver soi. Là où c'est une illusion, c'est qu'on trouve un soi totalement défoncé, donc c'est pas soi. Mais ouais, ça m'intéressait de travailler cet état de conscience là. Clairement, ça me permettait aussi ce truc là en fait. À chaque fois dans le roman, lorsqu'il se remet à fumer, c'est aussi le moment où il se raccroche à la réalité. Donc il part dans ses pensées, puis d'un seul coup, tiens, j'ai envie de fumer. C'est le rapport au réel. Et donc le rapport au réel, c'est un rapport qui est extrêmement furtif, fugace,
vain. Et fuyant.
Et fuyant, ouais, clairement.
Est-ce que ça agit aussi sur la langue que vous avez trouvée, justement?
Peut-être, oui. Peut-être. Oui, alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire toutes les parties sur le bon shit bien gras. Mais je crois qu'il y a aussi autre chose. Je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, par exemple, il y a une espèce de fierté qu'ont certains, surtout des mecs, à bien rouler. Le cône bien roulé, il est bien fait, il y a ce truc-là. Il y a un rapport, je crois, aussi qui joue. Alors, c'est pas du tout exclusif, parce qu'y a plein de personnes assignées féminines qui fument. Mais je crois que la virilité arrive même à s'insinuer là-dedans. C'est comme le capitalisme, il arrive à tout reprendre, la virilité, et le patriarcat, de toute façon, qui est... Le capitalisme est une invention du patriarcat, donc, enfin, je crois... de la même manière, il arrive à tout réinvestir. Et donc, même dans le shit, même dans la perte de contrôle, là où le viril doit être toujours en contrôle, mais même là, la perte de contrôle, ça peut devenir une marque de virilité. C'est dingue comment le viril arrive à tout bouffer.
En fait, j'étais partie d'une réflexion sur le féminin. Je me demandais pourquoi, à l'heure où le féminisme avait gagné la bataille idéologique, en tout cas dans les pays occidentaux, comment on pouvait expliquer la perpétuation des discriminations, des violences envers les femmes. Et en tirant des fils, j'ai compris que la question ne venait plus seulement de la perpétuation des stéréotypes sexués féminins, parce que ça, justement, ça fait plus d'un siècle que les femmes les ont questionnées ou remis en cause, que de la perpétuation des stéréotypes sexués masculins qui, eux, sont encore largement impensés. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à la question de la virilité. J'ai commencé à découvrir un sujet carrément tabou. Qu'une dominée remette en question sa domination, c'est assez normal, mais que le dominant lui-même réfléchisse à ça, et surtout l'idée de dire aux hommes qui sont dominés par leur domination, et que peut-être que ce mythe viriliste les opprime eux aussi, ça c'est effectivement très tabou. Parce que la hiérarchisation des sexes, avec cette idée de supériorité du masculin sur le féminin, que cette idée ait opprimé la femme, c'est une évidence. Mais que ce système soit aussi un système d'oppression de l'homme par l'homme, ça c'est un sujet tabou.
J'écris aussi bien, et dans la foulée, pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs. Ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur tout seul le soir. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon je ne l'ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Marin Fouquet, juste après un extrait d'une série documentaire où on entendait Olivia Gazalé parler de sa découverte, finalement, de la domination des dominants, de la manière dont le patriarcat est produit lui-même son système de domination. Un extrait de King Kong Theory, parce qu'à la fin, dans cette longue salve de remerciements chaleureux, vous remerciez Virginie Despentes pour la claque. Quelle claque nécessaire a-t-elle été pour que vous puissiez la remercier autant et pour qu'elle teinte à ce point l'écriture de 77.
En fait, c'est un peu comme le racisme. C'est-à-dire que le racisme, pendant très longtemps, je me suis dit, mais non, je suis pas raciste. Non, c'est une évidence, je suis pas né dans un milieu raciste. Je sais très bien que l'oncle Jean-Pierre en bout de table, c'est un gros facho avec ses blagues, je le sais. Je prends un exemple comme ça, mais...
Toujours l'oncle qui prend, hein, en tout cas.
Oui, mais la figure de l'oncle en bout de table, voilà, elle marche très bien. Mais ce que je veux dire, ça peut être l'oncle, le voisin, ni quoi que ce soit, mais l'autre, il est raciste, c'est évident, parce qu'il fait des blagues sur les Arabes, il fait des blagues sur les Noirs, donc on sait qu'il est raciste. Mais moi, je le suis pas, c'est sûr. Puis je me suis rendu compte que, en réalité, ce qu'il y avait presque de pire, c'est le racisme ordinaire. Et de la même manière, je me suis rendu compte que j'étais peuplé de misogynie ordinaire. Et en lisant King Kong Theory, je me suis rendu compte que bah c'était moi l'oppresseur, que je l'étais, que je le veuille ou non. J'étais assis en haut d'une pyramide de privilèges. Je suis un homme blanc, hétéro, cisgenre, de classe moyenne plutôt élevée, et donc du coup je suis en haut d'une pyramide de privilèges. Et ce truc, ce réflexe qui vient, je pense, essentiellement aux hommes qui se disent de gauche ou d'extrême gauche et compagnie, de dire non, c'est pas à moi que ça parle tout ça, il fallait le remettre en question. Donc ça, c'était la première claque que King Kong Theory m'a fait, de me mettre face à mon miroir et me dire bah c'est toi, ces comportements tu les as, ces privilèges tu en jouis, et si tu jouis de ces privilèges, un privilège c'est toujours aux dépens de quelqu'un d'autre. Et j'entends très souvent des discours justement de bien-pensants de gauche qui disent mais non, mais faut niveler vers le haut. Il faut que les femmes, les personnes racisées, les personnes trans, les personnes LGBT et compagnie, il faut qu'ils aient les mêmes privilèges que nous. Sauf que non, un privilège c'est toujours aux dépens de quelqu'un d'autre. Donc faut accepter de se déconstruire et accepter de refuser certains privilèges, accepter de ne pas rentrer dans une pièce et de balancer n'importe quelle phrase avec la voix la plus grave possible où on sait très bien qu'on va être entendu parce que c'est fait comme ça. Et c'est dingue. Hein. On rentre dans une pièce si on est un homme blanc hétéro cisgenre et qu'on a par exemple exemple, une voix comme la mienne, on arrive, on peut dire pédoncule, tout le monde va se taire et écouter et faire attention à ce pédoncule. Ça, c'est juste un privilège qui existe depuis très longtemps. Ça a été la première claque. Et la deuxième claque, et c'est aussi dans mes remerciements, c'est par une artiste rappeuse qui s'appelle Safia Bametschwartz. Et Safia Bametschwartz, elle m'a fait aussi comprendre par sa musique, par son travail, de toute la déconstruction qu'il y avait de nécessaire, et par où ça passait. Je trouve ça incroyable, parce que comment est-ce qu'elle s'appelle cette
Olivia Gazalet.
Olivia Gazalet. Ouais, c'est dingue parce que tout homme qui s'est retrouvé dans un vestiaire de sport l'a vécu en fait ce truc-là.
Bah oui, mais du coup, vous dites oppresseur, que King Kong Theory vous a fait découvrir votre position d'oppresseur, mais ce qu'on lit dans 77, c'est la prise de conscience que l'oppresseur est oppressé.
Oui.
Et que dans le vestiaire de sport et que dans d'autres situations, votre narrateur, par la réminiscence, par cette espèce de rêverie comme ça un peu embuée au rythme des voitures, se rend compte qu'il a occupé une place particulière dans cette bande de copains.
Mmh. Mais il y a deux prises de conscience, je crois, enfin en tout cas qui ont été pour moi. La première, c'est t'es un oppresseur, c'est un fait, c'est comme ça. Tu peux le discuter autant que tu veux, avoir toute la mauvaise foi du monde, tu l'es. Et ça, c'était la claque de Virginie Despentes. Et la claque de Safia Bametschwartz, ça a été de se dire tu es un oppresseur, ok, c'est une bonne chose de t'en rendre compte, mais les maltears, c'est-à-dire se plaindre du fait d'être soi-même l'oppresseur et d'être oppressé par l'oppression et de à quel point est-ce que je suis mal, je suis un homme qui s'est fait écraser par le virilisme et compagnie, ça reste un schéma d'oppression. C'est-à-dire que on l'a accepté à un moment donné.
Mais c'est un processus de compréhension, c'est-à-dire que vous parlez de déconstruction, Marin Fouquet, mais en fait, peut-être que vous parlez de ces larmes masculines, mais bon, tant pis, s'il faut pleurer dans un premier temps, s'il faut que tout le monde pleure pour se dire, très bien, la construction culturelle nous a mis chacune et chacun dans une position vraiment pas très intéressante, pleurons,
ouais, mais
c'est pas grave.
Oui, carrément, pleurons.
Et franchement, pleurons, c'est pas grave.
Génial, carrément, mais ne nous arrêtons pas là.
Ne nous arrêtons pas là, je suis d'accord, mais on peut pas non plus interdire aux hommes de pleurer un temps sur leurs tristes conditions.
Mais je sais pas, parce que justement, le patriarcat, il a cette force-là.
De tout récupérer comme le capital.
Ouais. Et donc du coup, en fait, et c'est là où on voit, par exemple, aujourd'hui, plein de jeunes hommes qui se disent féministes pour pouvoir pécho le plus de meufs possible. C'est une réalité. Et qui se servent justement de cet argument-là comme un argument, en fait, d'oppression. Parce que je suis persuadé, par exemple, que la drague, la séduction, c'est un instrument d'oppression. Et donc... tous ces trucs-là sont... oui, je vais pleurer sur mon sort. Oh, comme je suis mal d'avoir été bizuté dans les douches quand j'étais adolescent. Oh, comme je suis mal et je suis faible et compagnie. Non, ça suffit pas. À un moment donné, il faut accepter de tout redéconstruire. Tout, en bloc. Et ne rien laisser de côté. Et c'est extrêmement compliqué. Et je dis pas que j'y arrive. J'y arrive pas. Mais il faut le faire. Il faut le faire, il faut le faire coûte que coûte.
Et la littérature est un outil pour ça ?
Ouais, je crois. En tout cas, ce premier roman m'a aidé à ça. Ça sert aussi à prendre des positions et dire des choses dans un micro à une radio et donc du coup, qu'on puisse nous le ressortir à un moment donné et nous dire, bah, tu te rappelles, en 2019, avant que tu deviennes un patriarche blanc qui écrit des livres et qui est assis sur ton petit fauteuil.
Tu disais qu'il fallait pas pleurer, Marin Fouquet, tu t'en rappelles ?
Exactement.
Il y a une fille, cette fille de novembre qui pendant un temps n'a pas de prénom, qui petit à petit va le conquérir comme d'autres vont conquérir leur corps. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Marin Fouquet ?
La fille novembre, c'est un personnage qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. C'est le personnage à partir du moment où je me suis rendu compte en fait que dans le premier jet, je me suis rendu compte à un moment donné que je l'hypersexualisais.
C'est une fille qui fait partie de cette bande, bande dont les souvenirs reviennent à ce narrateur dans la Pribus.
Ouais, carrément. Et dans l'écriture, malgré mes intentions, je sexualisais pas les autres. Et à partir du moment où j'ai décidé de changer ce curseur-là, de plus sexualiser d'autres personnages, de elle la désexualiser, et de elle en fait arrêter de la considérer comme une autre, autre entendre femme, malheureusement, quand j'ai accepté de la considérer en fait comme les autres personnages, plus rien n'était possible pareil. Et c'est elle qui en fait a mené la petite musique derrière.
Donc la littérature, c'est aussi un laboratoire pour tester des choses, alors. Si on peut le faire d'abord avec des personnages, parce qu'on peut bouger les curseurs plus facilement sur les personnages que sur les personnes en vie, ensuite, peut-être on peut le faire dans le monde incarné.
Ouais, carrément. Après, on peut encore une fois poser la question du fait que je suis un homme qui s'amuse à jouer avec des personnages, avec un personnage féminin. Ça pose aussi d'autres questions.
Mais vous jouez pas qu'avec des personnages féminins ?
Non, non, non. Et je me pose d'ailleurs beaucoup de questions vis-à-vis des auteurs qui le font. Je me pose la question de ce qu'il y a derrière. Avec quoi est-ce qu'on joue, en fait ? Même avec quelle classe sociale est-ce qu'on écrit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et très souvent, quand on n'est pas au clair sur la question, il y a beaucoup de classisme, en fait, qui arrive. C'est des questions qui m'ont beaucoup travaillé pendant.
C'est pour ça que ça vous a semblé important d'écrire une postface?
Il fallait absolument que. Alors, j'y avais pas du tout pensé. Et puis, c'est mon éditrice, Marie Demeure, qui m'a demandé quelques jours avant l'impression, et est-ce que t'as des remerciements? Je savais pas qu'on pouvait remercier dans un livre.
Mais il n'y a pas que des remerciements. Vous dites des choses sur votre vie. Vous dites deux, trois petites choses sur votre place. Comme si c'était important pour vous de dire. D'où j'ai écrit ce livre-là.
Ouais, je crois qu'il y a un effort de sincérité et d'honnêteté que devraient avoir toutes les auteurs et les autrices de qui on est, en fait. Il y a quelqu'un derrière. Et puis, on m'a beaucoup dit, oui, mais l'auteur, c'est justement un truc de l'ombre, il se cache derrière le livre et compagnie. Mais ça, c'est plus vrai, c'est de l'hypocrisie de dire ça.
Non, par contre, il y a de la puissance de l'imaginaire.
Et ben, là, on est sur un débat, j'adorerais en parler des heures. Je me pose vraiment la question de qui on est pour écrire, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire, qu'est-ce qui fait que, pourquoi est-ce que c'est pas un auteur, je sais pas moi, un auteur de la Cité des Quatre Chemins qui, parce qu'il y en a, et pourquoi c'est pas un auteur de la Cité des Quatre Chemins qui peut justement, peut-être qu'il peut l'écrire le mieux là-dessus, et pourquoi est-ce que c'est un type qui a grandi dans, j'en sais rien moi, dans le 15e, dans le 14e, dans le 16e, qui vient d'un certain milieu social et qui va se pencher là-dessus, pourquoi c'est lui qui est édité et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi?
Bah pour plein de raisons de classe sociale, de construction sociale, ouais. D'accession à la littérature, d'accession à des cercles qui mènent à la publication, ça il y aurait plein de réponses à vous apporter, Marin Fouquet, mais est-ce que ça vous empêche d'écrire pour autant?
Mais justement, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais je me pose la question de cette pyramide des privilèges et qu'est-ce qui fait que moi, en tant qu'homme blanc hétéro aussi, genre, je peux écrire sur tout ça, et qu'est-ce qui fait que par exemple des autrices racisées sont quasiment on va les prendre uniquement si elles écrivent sur leur genre et leur classe sociale racisée, c'est pas une classe sociale, enfin quoi, enfin ah c'est compliqué, mais
dans ce cas abandonnez votre privilège.
Oui,
vous auriez dû dire non,
j'écris pas,
je publie pas. Je laisse la place.
Oui, mais je me suis posé la question. Après, je crois que je suis bon qu'à faire ça. Et aussi l'oppresseur, pour arrêter d'oppresser, il faut qu'il se réalise en tant qu'individu. Parce que sinon, il est juste un ramassis de frustration. Et la virilité, c'est ça en réalité. C'est une barre qui est mise à un endroit qui est inatteignable. L'homme viril n'existe pas. L'homme n'existe pas. C'est une chimère, ça n'existe pas. C'est une construction sociale. Comme dit John Soltenberg, dans Refuser d'être un homme, il dit oui, il existe des verges, il existe des prostates, il existe des testicules, mais l'homme n'existe pas. C'est une réalité naturelle fausse. Il n'y a pas de réalité naturelle à l'homme. Et donc c'est que de la frustration, la virilité, c'est une barre, on peut pas l'atteindre, et donc du coup comme on l'atteint pas, eh ben on se forge avec de la frustration de pas l'atteindre, et c'est là où il y a justement des violences qui se mettent à arriver. Et
qui sont présentes dans votre texte, justement. On en écoute un extrait.
C'est ça, le bourg. C'était ça, notre champ de bataille. À chaque Saint-Fortuné, on se retrouvait tous sur la petite place du Monument aux Morts. Cette petite place, avec Enzo, ça nous faisait toujours quelque chose d'y être. Le vieux casqué de pierre, ses sourcils froncés, son air sévère, sa moustache et son fusil, baïonnette pointée vers le lointain, et tous les noms inscrits dessous en lettres d'or. Les souvenirs nous remontaient à la gueule comme la légère odeur de thuya du massif où l'on s'était planqué. C'était pendant une commémoration du club des anciens combattants. Une dizaine de tronches vivantes, encore plus blêmes et fermées que celles du casquet de pierre. Il y avait un gros à galon, tout en sueur, qui frappait sur son tambour. La graisse de ses bras comme des vagues en rythme. À côté d'un petit, avec le béret tout enfoncé sur ses lunettes, qui lisait un à un des noms auxquels un grand tordu se tenant derrière avec une énorme pomme d'Adam dans son cou répondait direct en hurlant « Mort pour la France !» À chaque nom, la boule remontait d'un coup dans sa gorge en biais « Mort pour la France !» Il gueulait, le tordu. Son cou et tout son corps étaient vrillés et il s'appuyait sur son drapeau bleu-blanc-rouge pour s'équilibrer, pour compenser, pour pas tomber de sa torsion. Mort pour la France, comme un réflexe, comme si on lui avait marché sur le pied ou comme si chacun des noms le réveillait. Mort pour la France. Puis il se rendormait et se réveillait encore plus fort. Mort pour la France. Pomme d'Adam prend l'ascenseur. Son béret qui tombait, stoppé par l'arête de son nez. Ses yeux qui se fronçaient. Sa bouche qui s'ouvrait d'un coup. Béance mécanique. Vérin entre les dents. Cri strident. Gorge vibre pour retour au silence. Et un nouveau nom était dit, alors. Mort pour la France. Automatique.
Des gens réunis autour d'un monument aux morts et des gosses qui voient remonter et descendre la pomme d'Adam, là aussi, attribut masculin du corps des hommes, Marin Fouquet. On a lu un extrait, Romain de Bec de Lièvre a lu un extrait de 77 et juste après, Michel Polnareff, parce que sa voix, comme les voitures qui passent, rythme le monologue intérieur de votre personnage principal. Cette lettre qu'il adresse à la France, d'une certaine manière, vous l'adressez vous aussi en écrivant ce chapitre, en écrivant même ce livre-là. Quelle est la part d'un propos beaucoup plus clairement politique dans ce texte-là ?
Déjà, je pense que c'est politique parce que c'est dénué de tout cynisme. Et je crois que malheureusement, à notre époque, c'est déjà extrêmement politique de ne pas être cynique. Donc j'ai essayé d'être le plus sincère possible, de prendre les choses avec les personnages, chaque personnage de la manière la plus bienveillante et aimante possible. Ça aurait été très facile de, et c'est ce que font certains, de prendre un territoire rural pour donner ce que, pour dire grossièrement ce que les Parisiens aimeraient en entendre, c'est-à-dire un territoire violent, un territoire rustre, un territoire un peu bête. Et j'ai voulu.
Quelle image vous avez des Parisiens?
Mais quand on lit certains bouquins, on se demande, je trouve, on se dit qu'est-ce qu'il a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu leur donner à manger, qu'ils avaient déjà prémâché avant, quel vomi il a voulu leur refaire boire. Et donc voilà, la manière la plus sincère possible, la plus bienveillante possible. Politique aussi parce qu'il y a cette dimension de déconstruction de la virilité et de proposition, pas de proposition, mais de au moins dire il y a peut-être une autre chose possible, peut-être une troisième voie, une quatrième voie, une cinquième voie, une sixième voie. Il y a peut-être d'autres chemins qu'on peut emprunter. Je les ai pas trouvés encore. J'espère que je les trouverai. Peut-être que ce personnage, à la fin, il les trouve. Vous me direz. Mais
En tout cas, il s'en approche. Il y a un des chemins qui lui permet de s'en approcher, c'est son corps. C'est la danse, c'est la manière dont la rythmique qui lui était extérieure et hypnotique des voitures qui passent lui devient intérieure par la musique et par la danse. C'est en incorporant le rythme et en le vivant du côté de la joie et plus du côté de l'abrutissement qu'il trouve une troisième ou une quatrième voie d'une certaine manière.
Ouais, carrément. Il retourne à son corps et donc il retourne à soi, et retourner à son corps c'est aussi du coup déconstruire tout ce qui a été mis sur le corps, toutes les différentes carapaces, toutes les différentes armures, l'abri, la capuche, et c'est retirer tout ça, retirer l'abri, retirer la capuche, retirer l'obsession du muscle, l'obsession de, et de revenir à ce qu'il y a à l'intérieur du corps et pas juste ce qu'on y a mis par-dessus.
À la fin, il est beaucoup moins protégé. En effet, vous le dites, Marin Fouquet, il a perdu toutes ces carapaces-là. Il est presque un nu dansant. C'est vraiment cette figure-là, en tout cas, avec laquelle j'ai refermé votre roman. C'est des images comme ça, même des archives d'images d'années 90, de rêves partis où le soleil se lève et puis il y a des espèces de corps dansants qui sont peut-être drogué, et encore une fois, je suis loin de faire cette apologie, c'est interdit par la loi et c'est mauvais, mais tellement joyeux, tellement content.
Ouais, mais personnellement, en rêve parti, j'ai à un moment donné peut-être saisi ça. Déjà, en rêve parti, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de drague. Chaque personne est là face au son, face au mur de son. Et c'est lui, elle, son corps, ou elle, face au mur de son. Et c'est un rapport très physique au son. Le son est là pour faire bouger le corps de l'intérieur, hein, totalement, parce que les basses sont tellement fortes que c'est de l'intérieur. Et il n'y a pas un DJ ou une DJette à regarder. Il y a juste un mur de son. Et les personnes s'adressent juste la parole pour se dire des choses très simples. Mais il n'y a pas de drague. Il n'y a pas de séduction. C'est vraiment chacun soi, ensemble et dans la conscience de soi et la conscience de faire un événement collectif politique. Après, il y a plein de choses qui sont totalement inintéressantes en rêve et qui il y a en plein de points des choses à redire, mais ce rapport-là au corps, à son corps et au corps des autres, je l'ai trouvé assez juste.
En tout cas, c'est comme ça que votre narrateur trouve sa justesse à la fin de 77. Merci beaucoup, Marin Fouquet.
Merci Marie-Jeu. Rouge, les heures ont dû passer. Le kick les structurait tellement bien de son battement, mesure après mesure, que ce n'était plus important. Il se chargeait du temps. C'était sa part du boulot. Nous lui faisions confiance. À nous, ne nous restait plus que nos corps à nous occuper. Occuper nos corps, les habiter au mieux, du meilleur mouvement. Parfois, je scrutais un visage, cherchais une courbe, un déhanchement de bassin, une commissure d'extase. « Ton corps ?» me disait le type. Et je retournais à mes paupières, à mon mouvement, bien dans le kick. Mon corps, c'était déjà beaucoup à s'occuper. Ma colonne vertébrale, je l'entendais crépiter dans mon dos. J'en étais sûr. D'abord, ça a été un grincement. Chaque jointure de ma colonne grinçait dans le kick. C'est qu'elle cherchait le mur de l'abri, ma colonne, instinctivement. À chaque mouvement, elle voulait son support, sa limite d'ouverture, son tuteur. Et comme elle n'a rien trouvé que le vide, puis le kick, puis le vide, puis le kick, puis le vide, puis le kick, intermittence de lâcher prise et d'étaux dans l'espace, elle a fait balancier ma colonne, avant en arrière, libre et retenue. Et c'est comme ça que j'ai dansé. Pour la première fois, je dansais. C'était bon. Pour la première fois, je faisais quelque chose de mon corps, quelque chose d'important, quelque chose pour moi. Mon bassin tournoyait, loin du banc en dur, comme un cerveau invisible tout autour. Plus grand que le contour de l'abri, le cerceau. Mes mains s'étiraient de part et d'autre de mon corps. J'aurais eu des volutes s'échappant de ma bouche que j'aurais volé moins haut. J'ai été dans mon corps dans le kick, totalement, au milieu des autres corps jusqu'à ce que le soleil se lève. Je crois qu'il a plu, parce qu'il y avait comme des taches qui couraient sur le noir de mon suite, et c'était frais. La lumière augmentait, les stroboscopes faiblissaient, les spots de couleurs se faisaient aquarelles, les arbres prenaient des contours et les corps se mettaient à avoir des gueules. Mâchoire crispée, lèvres blanchies, paupières tremblantes avec orbite ronde, s'abritant derrière, joues creusées, nuque molle, bras ballants.
C'était Jean-Guilain Mage à la prise de son ce soir, à la réalisation. Charlotte Roux, Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lucie Riandet et 77, c'est chez Actes Sud.